Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel pour le quart d'heure réservé aux petits. Je suis Isabelle et avec la complicité de Roland à la technique, je vous emmène en Provence, sous l'œil de la déesse. À l'interrogation du poète, vers 390 avant Jésus-Christ, les Phocéens, qui avaient fondé Massilia, de nos jours Marseille, et établi des colonies tout autour, faillirent avoir bien des ennuis. Ces colonies, que peuplaient les Celtoligiens, comme ils se disaient, se révoltèrent contre la métropole, qui ne s'en douta pas. Caramandus, chef d'une petite tribu réputée pour son courage, fut chargé de diriger l'offensive. Son quartier général se trouvait à l'emplacement où domine aujourd'hui Notre-Dame des Anges. La veille du jour fixé pour l'attaque, les conjurés s'en avertirent au moyen de signaux lumineux que les Phocéens d'en bas prirent pour des feux de bûcherons. Dès l'aurore, on passerait à l'action. Mais bien avant l'aurore, Caramandus, qui avait sombré dans une demi-somnolence, eut un songe. Une femme superbe, en tenue de guerrier, debout à côté de son lit de camp, le regardait avec une terrible sévérité. Une déesse, sans doute possible, et le pieux Caramandus l'écouta en tremblant. Elle lui interdisait d'attaquer Massilia, cité qu'elle tenait sous sa protection, et lui enjoignait de se rendre auprès des chefs massiliotes pour signer avec eux un traité de paix définitif. Pour un homme de foi, les décrets des dieux ne se discutent pas. Encore faut-il n'être pas dupe. Il est des circonstances où l'on en arrive à douter de tout, même des dieux. C'est pourquoi, en temps de guerre, on attache prudemment leur statue avec de lourdes chaînes pour qu'elles ne s'en aillent pas chez l'ennemi. Caramandus résolut de contrôler d'abord l'identité de la déesse qui lui était apparue. Il s'agissait bien de la protectrice de Massilia, et sa statue devrait se trouver parmi toutes celles qui peuplaient la ville. Alors elle ne l'aurait pas trompé, et il s'inclinerait. Mais avant de procéder à cette vérification, son premier soin fut d'envoyer aux conjurés l'ordre d'arrêter les préparatifs. Cela fait, il descendit de ses hauteurs, et arrivé devant Massilia, il obtint facilement de la sentinelle qu'elle le laissa entrer. Sa tournée commença par le temple de Diane, particulièrement vénéré des Phocéens. C'était elle qui leur avait conseillé de quitter leur ville pour s'installer sur cette rive méditerranéenne. En reconnaissance, leur but atteint et la magnifique cité construite, ils élevèrent à la déesse un temple immense. Mais Diane ne rappelait en rien la vision de Caramandus. Il passa à une autre, non plus. À celle-ci, celle-là, non plus. Le scrupuleux rebelle ne voulait en manquer aucune, malgré le temps qui pressait, malgré cet air d'attendrissement ironique qu'il croyait lire sur ses beaux visages de marbre. Il commençait à se persuader d'avoir été victime d'un faux semblant, peut-être suscité par sa propre inquiétude, quand, à l'endroit précis où s'élève aujourd'hui l'église des Accoules, la révélation le frappa en coup de foudre. Sous le portique du sanctuaire consacré à la déesse, s'imposait la statue de Pallas Athéna, rigoureusement pareille à sa visiteuse de la nuit. Et la statue s'anima. De ses traits courroucés émanait un ordre irrésistible. Caramandus comprit. Seulement il lui fallait convaincre ses alliés qui devaient bouillir de l'impatience à se battre. Mais la déesse pacificatrice dut l'inspirer. La peur de désobéir à Pallas, la loyauté de Caramandus firent le reste. Et tout rentra dans l'ordre. Alors Caramandus se rendit auprès des chefs massiliotes. Il les félicita de la haute protection dont ils bénéficiaient et respectueusement exposa les doléances des Celtoligiens. À cet effort de conciliation, les massiliotes répondirent par une sincère volonté d'entente et tout finit par s'aplanir et la paix fut signée. Mais Pallas Athéna, lorsque les temps changèrent, loin de retirer sa protection à Marseille, l'étendit à toute la Provence. Hélas, elle n'a pas pu lui éviter toutes les vicissitudes des armes. Les hommes de peu de foi que sont ceux d'aujourd'hui n'auraient pas écouté ses avis. Mais parce que Pallas veillait, cette belle Provence tant convoitée a gardé l'éclat de la jeunesse et du bonheur de vivre. Pour la seconder, Pallas a choisi la chèvre fée, cette chèvre d'or qui fut si grand amie de Mistral, Paul Arène, tant d'autres poètes provençaux. Son ministère comporte surtout la protection de la nature avec le châtiment des malfaisants qui, par inconscience ou non, offensent le paysage et sa gent animale. Le rôle de la déesse est plus vaste et, cela va de soi, plus représentatif. Elle préside à toutes les fêtes grandioses, accueille, aide, comble même d'attention les visiteurs d'élite, qui ne sont pas toujours les grands de ce monde. Ses préférences vont aux artistes et aux poètes. Et si la chèvre d'or, comme toute fée, doit mourir un jour, sa souveraine, puisque déesse, est éternelle. Mais s'ennuierait-elle en cette éternité? Simplement désire-t-elle, par une fréquentation plus intime, étudier les humains? On ne compte pas ces métamorphoses, les unes féeriques, les autres, qui la firent toutes semblables à nous. Refermant son livre de toute science, déposant son casque guerrier, elle se mêle les soirs de printemps au jeu des sirènes et des bondissantes lucioles. Elle chante avec les sylphes, des esprits de l'air, à l'ombre d'argent des pâles oliviers, et quand l'air s'étourdit du craquettement des cigales, c'est qu'elle a mis sa robe à danser, sa robe aux sept couleurs où tintinabulent des sequins d'or. Quittons cette belle Provence pour monter à Paris, comme diraient les Marseillais, même aujourd'hui. Pour un conte intitulé « Le petit homme rouge des Tuileries ». On attribue la gloire de Napoléon au génie militaire, à la vaillance, au magnétisme personnel, à une puissance de travail, comme il n'est pas d'autre exemple, à la faculté qu'il avait de s'endormir à son gré, n'importe où, n'importe quand, et naturellement à la chance. Eh bien, il y avait autre chose. Napoléon bénéficia de la protection du petit homme rouge des Tuileries. Étrange personnage, quasi historique, tant on a écrit sur lui. Il se déplaçait beaucoup, mais les Tuileries étaient son domicile fixe depuis que Catherine de Médicis l'y avait amené dans ses bagages. Les spécialistes de la question le rangent parmi les sauterets ou lutins. Ces esprits familiers, serviables mais volontiers farceurs. Il vous cache l'objet dont vous avez besoin pour vous le restituer là où vous ne l'auriez pas cherché. Vos lunettes, par exemple. Ah, qu'ils aiment donc s'amuser avec les lunettes. Ils jettent dans le plat qui mijote une poignée de sel de trop. En dehors de la maison, les ateliers d'imprimerie sont pour eux un terrain de jeu dont il ne semble pas qu'ils puissent se passer. Mettre une lettre à la place d'une autre. Ou un mot, intervertir les lignes. Ils ne s'en lassent pas. Leurs bons offices sont aussi inattendus. Le livre qui s'ouvre tout seul, juste à la page qui ravivera votre mémoire à la veille d'un examen. L'objet qui vous eût blessé en tombant et qui se trouve arrêté dans sa chute. Heureux hasard, multiples et fréquents. Revenons-en au petit homme rouge en particulier. Don Calmé, consciencieux et sévère historien du XVIIe siècle, qui lui a consacré de graves dissertations, le décrit tout petit, si petit, qu'il arrive à passer par le trou d'une serrure. Vêtu de rouge, sous un bonnet de même teinte, de la forme d'un bonnet phrygien, symbole de la mascarade révolutionnaire, singulier couvre-chef pour un locataire des rois. Était-ce une manière d'avertissement ? Il voyageait beaucoup, avons-nous dit, et il semblait goûter de temps à autre les charmes champêtres. Près de Raon-l'Étape, il fut précisément parrain du lieu-dit vêtu de rouge. Aux Tuileries, il allait et venait partout, sans qu'on lui accordât plus d'attention qu'à un petit animal familier. sauf si son espiègle menue figure se faisait triste. On était sûr alors de l'imminence d'un deuil ou d'un désastre. Où se retirait-il dans ce grand palais? Le nôtre nous rappelle qu'on ne découvrit jamais sa cache mystérieuse. Catherine de Médicis le laissait folâtrer autour d'elle, la première à rire de ses taquineries. En voulait-elle à quelqu'un? À quelqu'une surtout. Elle expédiait vers la personne en question, qu'il avait ordre de tracasser durement. Plus tard, il aurait voulu aider Louis XVI, l'enlever à son établi de serrurier. Mais en vain multipliait-il les pirouettes. L'apathique souverain l'écartait comme une mouche agaçante. Alors, pour ne pas voir les événements qui se préparaient, le petit homme rouge écœuré, déçu, partit pour un tour du monde. Et un soir en Égypte, un soir qui était la veille de la bataille des pyramides, Bonaparte, allant et venant sans aide de camp, sous ses belles étoiles qui semblaient tout près, vit au bout de sa botte ce qu'il prit pour un curieux animalcule exotique. Il fit un mouvement pour s'en débarrasser, mais il entendit. « Que mon général pardonne mon audace et veuille bien m'entendre. L'inactivité me pèse, et s'il lui plaisait de m'utiliser, j'aurais grand honneur à travailler à sa gloire. » Bonaparte ne s'étonna pas. Un Corse sait que le merveilleux est autour de nous, et il n'y avait pas si longtemps qu'il s'était complu à écrire un conte fantastique. Et puis, malgré sa taille exiguë, il y avait dans l'attitude de l'étrange Brimborion, comme dans son accent, quelque chose d'indéfinissable qui devait être cet air des cours que l'empereur cherchait si fort à recréer. Amusé un peu, charmé certainement, le jeune général écouta la proposition du petit homme rouge. Ils firent alliance pour un premier pacte de 10 années. Reconnaissant qu'un agent secret quasi invisible et agile à se glisser partout représentait une précieuse acquisition. Mais Bonaparte n'était encore que premier consul ce jour que, pénétrant dans l'un des salons des Tuileries, il aperçut sur la cheminée une enveloppe à son nom. Qui l'avait apportée? Aucune des personnes présentes ne put le renseigner. Bonaparte la décacheta. Elle contenait une feuille de papier avec ces 3 mots « Tu seras roi » et une signature « Le petit homme rouge ». N'ayant pas connu d'empereur, il ne pouvait désigner autrement la charge suprême. Selon les récits, Napoléon eut encore à se louer de ses conseils jusqu'en 1805 à Strasbourg, puis à Vienne en 1809, où ils renouvelèrent leur pacte venu à expiration. Ils le renouvelèrent pour 5 ans seulement. Leur rapport s'était distendu. Cependant, à la Bibliothèque nationale, une estampe nous montre le petit homme rouge auprès du roi de Rome nouveau-né. Mais le menu mentor n'était pas toujours content des décisions de son impérial protégé, qu'il essaya de retenir au début de la marche sur Moscou. Une ou deux fois encore, avant Waterloo, il l'avertit de l'immense trahison de ceux-là même qu'il avait le plus comblé. Alors sans doute avait-il cet air sombre qui jadis, en tant d'autres occasions, jetait l'alarme dans la maison des rois. Après ces dates, on n'entendit plus parler du petit homme rouge des Tuileries. Que devint-il? Comme tout être de l'espèce féerique, il pouvait vivre des siècles, mais sans échapper définitivement à la mort. Quand et comment celle-ci s'est-elle présentée pour lui? La ville de Strasbourg, où son souvenir est encore si vivant, revendique de lui avoir offert son dernier repos. Sa forme fluide se serait diluée sous la tour de la cathédrale, dans le souterrain des fondations remplies d'eau profonde. Peut-être aussi a-t-il disparu quand plus personne n'a cru en lui. Allez savoir. Merci à Roland à la technique et à vous. Je dis à bientôt. Au revoir.